10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonjour, bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Nous sommes un jour férié et comme un jour férié, nous sommes ici pour accomplir notre mission puisque nous vous accompagnons y compris un lundi de Pâques. Prenez soin de vous, 10-11, c'est les informés tout de suite. Vous le savez, c'est d'abord un invité et puis ensuite des débatteurs qui vont commenter les sujets d'actualité. Ce qui a retenu notre attention, c'est on reviendra sur le fait qu'effectivement, qu'on dise de façon très libre, on en a marre des Arabes et de Macron. Ça se passait au meeting de Le Pen à Avignon. Et on parlera aussi de ce voile qui divise notamment, vous savez, d'un côté Marine Le Pen qui veut le bannir, de l'autre évidemment le respect de la République et de la loi du côté de Macron. On en reparlera et on reviendra dessus. Ensuite, autre sujet, c'est celui de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon avec notamment... Vous savez, ceux qui se posent des questions aujourd'hui, qui s'interrogent notamment sur l'abstention, que faire. Et puis Emmanuel Macron, on parlera aussi de la manière dont il mène aussi un peu sa barque, puisque certains le trouvent plutôt bon durant ce second tour, durant les campagnes. On va en parler, on reviendra là-dessus, pour évidemment permettre d'apporter un décryptage. Et puis on finira, vous savez, avec cette mobilisation des jeunes, le jeûne, le vote des quartiers populaires. Ils sont quand même entre intérêt, rupture, certains même disent vouloir voter Marine Le Pen, et c'est préoccupant d'ailleurs, mais n'oublions pas l'histoire de Marine Le Pen. Alors, vote blanc, abstention, ou quel choix faut-il faire? Nous en parlerons tout à l'heure, ici même, dans les informés, sur Beurre FM. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant, et plus que jamais, en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 10h, 11h, les informés, avec Adil Farkan.
Et je vais présenter tout de suite le face-à-face avec nos débatteurs influenceurs.
Les informés, le face-à-face.
Le face-à-face est avec Philippe Nadji-Boriaki, le conseiller régional Europe Écologie Les Verts. Bonjour.
Bonjour Adil.
Enfin Europe Écologie Les Verts, non.
Non. Écologiste indépendant.
Voilà.
Bonjour et puis j'en profite aujourd'hui en ce jour férié de rappeler à tous nos compatriotes chrétiens. Et
un jour important.
Un jour très important, bien le sûr. Dimanche de Pâques et le lundi de Pâques, hein, c'est l'entrée de Jésus-Christ, fils de Dieu, sauveur et rédempteur de l'humanité, qui rentre dans la sainte
ville. Le voilà théologien, notre ami.
Bah, un petit peu, je m'intéresse aux autres, donc forcément. Et puis, en même temps, on en profite quand même, on est dans cette magnifique radio de la fraternité, de souhaiter de bonnes fêtes de Pessard à nos compatriotes de confession juive.
Exactement. Voilà, et bien écoutez, c'est fait, et évidemment, c'est normal, c'est aussi l'esprit Beurre FM. Amine Saab, maire adjoint sur la ville de Courneuve, comment ça va mon cher Amine?
Bonjour Adil Farkan, bah écoutez, très très bien, et
tout
vous,
bien.
Comment
oui,
ça va?
Ça va plutôt bien.
Bah écoutez, parfait, bah, j'en profite également, comme notre camarade Philippe, pour souhaiter de joyeuses fêtes à toutes celles et ceux de nos compatriotes, qu'ils soient chrétiens, musulmans, qui sont en pleine période de Ramadan, ou nos amis juifs également.
Exactement. Bonjour Rudy Kazi, comment ça va?
Très bien, Adil.
Il est eu sur la ville de Saint-Germain-les-Prés. Pas Saint-Germain-des-Prés, non, c'est pas le 78.
C'est vrai,
il y en a tellement en plus, ouais. C'est Saint-Germain.
Les Arpajons,
exactement. Mais aussi également le
chez délégué, l'AEF, général délégué général de l'AEF.
Absolument, tout va bien.
Tout va bien. J'en profite aussi pour déjà pour vous remercier de ces souhaits en tout cas en ma qualité de confession chrétienne. C'est un beau week-end qui se prépare. Donc on salue aussi nos amis juifs qui préparent Pessah et puis aussi pour souhaiter un joyeux un bon Ramadan. À nos frères musulmans, nos amis musulmans qui se battent en ce moment pour jeûner toute une journée jusqu'à 20h30 et parfois au-delà. Donc bon courage.
J'ai une question à poser à Rudy. Ce soir pour le Ftor, il y aura un agneau pascal ou pas?
Je sais pas, faut que je demande à mon épouse.
Parce que là, on invite tout le monde, hein. Tous les auditeurs sont invités chez Rudy.
Allez, on y va, messieurs, tout de suite, avant d'accueillir notre invité, ça se passe tout à l'heure. J'aimerais qu'on aborde, vous savez, cette première question, notamment, est-ce qu'on peut dire comme ça de façon un peu... Comment à la fois les quartiers populaires qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon et qui se disent, pourquoi pas tester Marine Le Pen, mais pas par adhésion, par rejet, notamment, et dégagisme, je veux parler d'Emmanuel Macron, et évidemment, quand on entend, dans ce meeting de Le Pen... à Avignon, où certains disent, scandent, on en a marre des Arabes et de Macron. Comment peut-on laisser, évidemment, hésiter parfois à faire des choix? Aminsa. Compliqué. Ah,
c'est compliqué, oui, oui et non. C'est-à-dire que la situation où on en est aujourd'hui, elle s'est pas installée du jour au lendemain. C'est que tous ces débats nauséabonds, toutes ces thématiques qui préemptent l'ensemble du débat public, ça fait quelques années que ça s'installe. Et donc, on peut pas réagir de manière surprise. Tout ça on l'a vu venir, et d'ailleurs moi j'ai vu personne s'offusquer de ce qui a été scandé dans ce meeting il y a quelques années. Ça ne se serait pas passé comme ça, et donc encore une fois on voit que tout ça s'est décomplexé, la situation est
décomplexé, voilà, le mot est lâché,
le mot c'est celui-là vraiment, c'est-à-dire que tous ces débats sont devenus quasiment banals dans la société, et évidemment ça donne des second tours comme celui.
Il a raison, Aminsa. C'est vrai que ça n'a pas fait scandale. Hein. Il n'y a pas eu de polémique autour de ça, Philippe Najib Bouriaki.
Il n'y a pas eu de polémique, on n'en a pas parlé.
Parce
que Adil, comme beaucoup de médias, vous déformez les propos. Ils n'ont pas dit abat les Arabes, ils ont dit abattre les arbres. Hein, et puis ils ont pas. Et puis ils ont parlé de maçons, donc je comprends pas pourquoi on polémique là-dessus. Effectivement, il a raison, Amine. Il y a aujourd'hui une les gens sont décomplexés par rapport. Ouais, c'est très compliqué à dire, ça c'est impossible. surtout après le week-end qu'on vient de passer. On sent que les gens en parlent tranquillement. Vous voyez dans les réseaux sociaux, en plus avec cette année.
Non, mais ils le disent clairement, les supporters.
Et parce qu'ils ont été chauffés à blanc.
Ils disent, il y en a marre, il faut qu'elle passe. Des Maghrébins et des Arabes, on se fait agresser, c'est un scandale. Macron, il faut le raser, il faut lui couper la tête et les couilles, pardonnez-moi l'expression, et lui foutre. Et lui foutre dans la bouche, pardon.
Oui, voilà. Parce que lorsque vous avez les réseaux sociaux où vous pouvez parler de manière anonyme et être un grand défouloir, on l'avait vu dans les années 80, dans les stades de foot avec les hooligans.
Mettre les Arabes dehors, j'ai oublié de vous le dire.
Tout à fait, oui.
Mais ils sont chez eux.
Évidemment, ils sont français avant tout. Et c'est pour ça que c'est important en tant que français de pouvoir utiliser l'arme ultime qui est le bulletin de vote. Il y a eu quand même 13 millions au premier tour de personnes qui ne se sont pas déplacées. Ça devrait tous nous interroger. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les ramener voter? Et aujourd'hui, lorsque vous avez eu un Zemmour qui n'a fait que campagne que sur un thème, un seul et unique thème, donc il a cristallisé les plus fascistes des fascistes, les plus racistes des racistes, les plus nazis des nazis, autour de sa candidature, ça ne suffit pas, en tout cas, pour pouvoir gouverner et pouvoir passer au deuxième tour. Marine Le Pen a eu cette force depuis de très longues années de dédiaboliser le Rassemblement National, d'écarter tous les éléments qui pouvaient porter préjudice. On se rappelle de Cédric Carvignard, qui était conseiller régional à Lyon, qu'elle a exclu immédiatement lorsqu'il y a une photo de lui en faisant le salut nazi. Ouais. Enfin, il y a plein de gens qui ont été écartés assez rapidement. D'ailleurs, c'est pour ça, c'est surprenant qu'elle s'est coltinée avec un Damien Rieux sur sa liste dans le Nord.
Les médias également ont participé à cette dédiabolisation.
Tout à fait.
Et ouais. Les autres partis politiques.
C'est Aminsa qui parle, oui.
Oui, ils continuent de participer. Non, mais carrément, moi, je, sérieusement, par rapport à Zemmour, j'ai trouvé que c'était une personne de droite conservatrice plutôt que.
Ah, bah, elle était même presque convaincante parfois.
Hein. Très fort, touchant même quand elle parlait de sa vie et quand on a vu toutes ces traîtrises. Franchement, je vous dis, à un moment donné, moi, en toute franchise, un soir, j'ai eu de la peine pour elle. C'est dur. Ils sont là où ils sont. Je pense à Nicolas Bay, je pense à Collard, je pense à tous ces gens qui lui doivent tout, et y compris Marion Maréchal, qui lui doit beaucoup. Et je suis désolé, quand vous dites que vous êtes fait trahir par les vôtres, etc.
Redicale.
Un soir, j'ai eu de la peine pour elle. C'est pour vous dire.
Restons sur évidemment la thématique dédiabolisée. Effectivement.
Dédiabolisation.
Bien sûr.
Ben effectivement, je pense que les médias ont joué une grande part de dédiabolisation, dans la mesure où, lorsqu'on regarde bien, de toute façon, le programme de Marine Le Pen, il est toujours question d'immigration, il est question de préférence nationale, il est question aussi de questions identitaires aussi. Mais là où elle a axé sa campagne, c'est principalement sur le pouvoir d'achat. Donc pour parler en fait à une France ouvrière, à une France désœuvrée, à une France qui a subi le morcellement, l'archipélisation de la société, etc. Donc c'est une stratégie politique, mais le socle reste le même. Je veux dire, l'ADN du Rassemblement National, c'est l'ADN du Front National. Donc en fait, on a quand même un petit peu maquillé avec un petit peu de cosmétique pour arranger les choses. Et le fait qu'elle soit une femme procède aussi de cette cosmétique, comme pour pouvoir montrer une espèce d'image un peu plus adoucie. Et elle, d'ailleurs, elle joue aussi dans sa campagne sur le fait que ce soit une femme. Mmh. Là encore, dans son dernier meeting, elle en a parlé. Donc je pense que cette tentative de dédiabolisation, elle marche dans les sondages. Mais maintenant, lorsqu'il faut voter, vous voyez bien, par exemple, dans les sondages, mmh. elle recule un peu. Je trouve que au niveau des sondages, ça stagne un peu. Tandis que Emmanuel Macron, lui, ça remonte un peu. Alors, peut-être parce qu'il est en train de faire une réelle campagne, et que c'était pas le cas pour le premier tour, et que Marine Le Pen, elle a plus forcément, en fait, l'épouvantail Zemmour, qui lui donnait l'impression, effectivement, nous donnait l'impression que c'était... limite Alice au pays des merveilles, en fait. Vous voyez ce que je veux
c'est
dire
ça qu'on dit.
Voilà. Mmh. Et y a un petit problème là-dessus. Moi, je pense que les Français sont un peu plus obligés d'ouvrir les yeux sur le programme. D'ailleurs, Emmanuel Macron, il a dit ça va être programme contre programme. Et à la lumière du programme, on est toujours dans les thématiques de l'exclusion, de la préférence. En gros, Français de souche, quoi. Donc, avec tout ce que ça comporte, les autres exclus de ce schéma d'identité nationale qui se retrouvent un petit peu dans cette périphérie en ne se sentant pas totalement français ou en tout cas en étant exclus du sentiment français alors qu'ils le sont, comme on le disait à l'instant. Donc, je pense que les Français vont ouvrir les yeux sur le deuxième tour. Et,
je suis pas si sûr que ça, mais bon, les Françaises qui vont ouvrir les yeux,
j'espère que ça sera le cas.
Ça va être le cas, vous pensez vraiment?
Projet contre projet.
Je l'espère.
Je veux dire, ça se voit.
J'espère.
Même quand elle parle de pouvoir d'achat. Vous regardez, dans son programme, tout est toujours lié à l'exclusion des étrangers. Parce qu'on va dire, oui, regardez, l'Union européenne...
Je ne sais pas s'ils iront jusque-là. Je ne sais pas s'ils iront jusque-là, parce que d'abord, le temps est court. Le deuxième tour est dans 6 jours. Et surtout, ça fait quand même 15 ans qu'on ne vote pas pour un candidat ou pour quelqu'un. On vote toujours contre. Ça fait 15 ans qu'on vote contre. En réalité. Et donc, on a créé cette situation, notamment, tous les partis ont joué le jeu, on a créé les conditions d'une extrême droite forte, parce que c'est la garantie assurée d'une victoire au second tour.
Mais
les digues sont tombées. Mais les digues tombent de plus en plus.
Premièrement, c'est pas nous qui l'avons
Philippe
créé.
Philippe Adjiboyaki.
Je parle de la génération de nous. Celles qui sont aujourd'hui actives.
Ça a été instrumentalisé par la suite.
Oui, mais ça a commencé avec Mitterrand, en fait.
C'est ça. Ça a commencé par Mitterrand, ça a été renforcé par Chirac. Enfin, c'était la continuité. Ils avaient un filon, ils ont une poule aux œufs d'or. On vous fait peur avec le Rassemblement National ou le Front National. Et donc, forcément.
À force de jouer à se faire peur.
Et puis, il y avait un grand parti gaulliste encore.
On marque juste la première pause pub et on se retrouve tout de suite après avec notamment la question qui se pose, en tout cas dans les esprits. C'est la question du voile qui divise. Vous savez, dans les deux camps d'ailleurs. Hein. On en parle dans une poignée de minutes et on accueillera aussi notamment notre invité, M. Fodessila. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, les informés avec Adil Farkan.
Informés, c'est avec Philippe Ndjiboyeki, avec Amine Saha, avec Rudy Kazi, et notamment, nous allons accueillir notre invité dans les informés.
Les informés, l'interview.
Et l'interview, c'est avec Monsieur Fodessila. Bonjour, Monsieur Fodessila.
Bonjour, Adil Farkan. Ancien allez-vous?
Mais très bien, très très bien, mon cher Fodé. Ancien président d'SOS Racisme, aujourd'hui ambassadeur, donc qui représente le Sénégal. Et vous êtes plus que jamais engagé dans les questions de la diaspora, ici même en France, puisqu'on vous connaît votre engagement. Dites-moi tout d'abord, monsieur l'ambassadeur, monsieur Fodessila, comment vous vivez la situation actuelle, évidemment, à quelques jours de ce second tour? Quel est votre sentiment?
Moi, mon sentiment, si vous voulez, il y a quelque chose d'assez emblématique, c'est que j'ai été rencontrer des étudiants de la Sorbonne qui sont en ce moment mobilisés et qui occupent l'amphithéâtre, et j'en tire un double sentiment, c'est que il y a quand même toute une génération aujourd'hui des jeunes qui n'ont pas du tout la même appréhension que nous de l'extrême droite, qui n'ont pas connu
les
meurtres de Brahim Bourham, j'étais à la tête à marge d'une manifestation du Front National où Ibrahim Malik a une balle dans le dos par les couleurs d'affiches du Front National, et qui connaissions toute la brutalité et la violence qui est dans les gènes du parti d'extrême droite. Donc ça faut dire que déjà là, en termes de connaissance de ce que représente véritablement le Front National, j'ai le sentiment que Zemmour a fait le sale boulot, c'est-à-dire qu'il a réussi à donner une image édulcorée d'un parti ouvertement xénophobe et raciste que le Front National et les jeunes n'en ont pas forcément conscience. Et dans le même temps, il le qualifie quand même de fasciste, mais malheureusement, ils font renvoi dos à dos avec des politiques qui n'ont pas été menées ou des brutalités qu'ils ont subies durant ce quinquennat. et donc ils font une sorte de renvoi d'eau à dos, ce qui bien évidemment est extrêmement difficile pour tous ceux de ma génération qui savons que les attaques vont être extrêmement violentes, non seulement contre les migrants, de la part de l'extrême droite s'ils arrivent au pouvoir, mais
exact.
Il faut savoir qu'ils ne vont pas hésiter jusqu'à remettre en cause, par exemple, le droit du sol, le fait que tout enfant né en France soit considéré comme français. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un recul à la fois pour les migrants, pour les enfants issus de migration. C'est la Constitution qui va inscrire la préférence nationale, donc qui est l'identité nationale sous d'autres formes, et qui va s'appliquer à tous les points de vue. Donc, c'est une sorte d'apartheid à la française que Marine Le Pen est en train de préparer. Et donc, moi, j'ai passé beaucoup de temps avec ces jeunes en expliquant notamment cette question de remise en cause du droit du sol. Et je pense qu'à la fin, ils comprennent, en tout cas, que le renvoi d'oiseau n'est pas possible. Malgré tout ce qu'on peut reprocher à Emmanuel Macron, cela n'a rien à voir ni sur le fond, ni sur le fonctionnement des institutions, et encore moins sur le traitement inéquitable que nous
prévoit
Marine Le Pen depuis 40 ans d'ailleurs.
Monsieur Fodessila, qu'est-ce que vous dites justement, après ce message fort que vous nous livrez, puisque vous avez été rencontré ces étudiants, qu'est-ce que vous dites aux jeunes des quartiers populaires qui aujourd'hui, avec ce manque d'intérêt, pour ce second tour je parle, avec cette volonté de rupture au point d'aller voter Marine Le Pen, mais également aussi l'abstention, elle se pose de plus en plus dans les esprits. Qu'est-ce que vous dites?
Je dis simplement que voilà, la situation est la suivante, c'est que les politiques sont assez cyniques. Et que lorsqu'on ne va pas voter, on n'est pas pris en compte dans les programmes, et que moins on va voter, moins on est pris en compte, et ensuite, effectivement, on a le sentiment de ne pas être représenté. C'est-à-dire que aujourd'hui, la question qui se pose pour nous, c'est de dire il faut aller voter parce qu'on sait que d'abord que les conséquences vont être terribles par rapport à nos parents et par rapport à nous-mêmes, et que les brutalités qu'on subit, ne serait-ce que les violences policières, il y aura une sorte de permis qui sera donné, parce que c'est le message que vont envoyer Marine Le Pen vis-à-vis des quartiers populaires. Mais en plus, si aujourd'hui et à l'avenir, on veut être pris en compte, eh ben, il n'y a qu'une seule solution, c'est vraiment d'aller voter. Alors je sais bien que le sentiment du fait qu'on n'ait pas été pris en compte, qu'on n'a pas eu de signaux forts, que les discriminations à l'égard des quartiers populaires, et qu'on n'a même pas une vraie politique de la ville, telle que moi j'ai pu le connaître dans les années 80 sous Mitterrand, ou tel que ça peut continuer jusqu'à Jean-Louis Borloo, et qu'on a le sentiment que même les questions de diversité sont mises en avant sans véritablement qu'il y ait de contenu, mais il n'en demeure pas moins que pour nous, ça devient une question de notre intégrité physique et du respect qu'on nous doit dans un pays où notre pays, nos parents ont aussi participé à donner l'image qu'il a aujourd'hui. Et que rien, personne, ne se lèvera à notre place si on ne le fait pas. C'est au nom de ça que des générations entières, dont la mienne, on a créé un mouvement comme elle souhaite pratique, parce que si ce n'était pas nous, enfants d'immigrés, arabes, noirs, juifs, que nous étions pas mis ensemble, personne ne le fera. Alors je comprends les arrois, mais
donc,
là,
j'ai bien
là,
compris.
On n'a pas le choix, il faut y aller.
J'ai bien compris votre message, c'est aller vous mobiliser, et aller accomplir votre devoir civique, aller voter, c'est bien votre message.
Oui, c'est mon message absolument, à aller voter. Ça ne veut pas dire que les questions sont réglées, mais l'avantage, c'est que si vous allez voter, si on met barrage au Front National, on a les moyens de descendre dans la rue, on a les moyens de revendiquer, on a un rapport de force avec Emmanuel Macron qu'on n'aura pas avec Marine Le Pen. On n'aura aucun espace avec un parti aussi brutal, xénophobe, pour pouvoir ne serait-ce qu'exprimer nos droits à pouvoir revendiquer et puis à se réveiller. Donc, ne pas aller voter ou s'abstenir aujourd'hui, c'est faire le jeu de Marine Le Pen, et ça, je ne le souhaite pas pour les enfants de France.
Merci infiniment, Fodessila, ancien président des SOS Racisme, mais également aujourd'hui ambassadeur donc itinérant qui représente le Sénégal. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci, Fodessila.
Merci beaucoup, et bonne chance à cette belle émission que je suis assidûment.
Merci infiniment, merci, cher ami, merci. Messieurs, tout de suite, Rudy Kazi, Amine Saha, Philippe Nadji Bouriaki, je voudrais revenir sur ce sujet, notamment sur la question du voile qui divise. Pourquoi aujourd'hui on en parle? Pourquoi la question du voile revient dans l'espace? Rudy Kazi.
Parce que Marine Le Pen en parle. Mm-hmm. Parce que ça fait partie de son programme d'interdire le voile, enfin...
Dans l'espace public.
Effectivement, oui, et puis après elle a parlé, soi-disant, d'un référendum que voudrait mettre en place, d'ailleurs, qui sur le plan constitutionnel pose question, parce que si on prend l'article 11 de la Constitution, ça va être compliqué de convoquer un référendum sur voilà, sur toutes sur les questions identitaires ou les questions d'immigration, etc., puisque au titre de cet article, c'est plutôt sur les questions financières, etc., qu'un référendum peut être invoqué, on va dire. Donc c'est toujours un petit peu le fait de jeter de la poudre aux yeux pour parler aussi à son électorat et pour le conforter, aussi pour récupérer l'électorat de Zemmour, évidemment. Donc alors, est-ce que ça veut dire que sincèrement elle est contre le voile? J'ose dire que sur certaines de ses sorties médiatiques, elle prend des pauses avec des femmes voilées, etc. Elle joue un petit peu l'ambivalence là-dessus, peut-être encore une fois pour aller chercher les voix de Mélenchon, puisque le vote soi-disant communautaire, entre guillemets, s'est énormément déporté sur Jean-Luc Mélenchon, et elle veut en récupérer une partie.
Ça en devient de la sémantique, là.
Bah, carrément. Mais là, je pense qu'elle veut vraiment récupérer, en fait, le vote de Zemmour avec cette... Ce projet qui est phare pour elle, parce que en gros, si elle gouvernait, ce serait la première des choses qu'elle est en train de mettre en place.
Ah, mais
ça, après, c'est pas constitutionnellement
En fait, moi ce que j'observe, oui, dans la stratégie de Marine Le Pen et du Front National, enfin du Rassemblement National, c'est que elle est obligée de faire le grand écart quelque part. Donc c'est à la fois, il faut aller chercher les électeurs d'Éric Zemmour, et là, bon, ils sont plutôt acquis, mais quand même, il faut quand même garder cette main tendue de ce côté-là. Et puis en même temps, il y a les électeurs.
Et à l'encontre de sa dédiabolisation.
Exactement. Et donc, c'est vraiment un équilibre compliqué pour elle, mais je trouve quand même qu'elle le fait plutôt bien, parce que notamment dans les quartiers populaires qui ont beaucoup voté, Rudy le disait à l'instant, pour Jean-Luc Mélenchon, j'entends des gens me dire qu'ils vont voter potentiellement Marine Le Pen.
Je pense que c'est un peu à la marge. Alors c'est phénomène national.
Moi je suis quand même beaucoup plus prudent que ça. C'est-à-dire que il y a une volonté carrément de voter contre ses propres intérêts juste pour envoyer un message, parce que le message du premier tour n'était pas suffisant pour les quartiers populaires, clairement, parce que au soir du premier tour, on parle plus d'eux, c'est terminé. Revient dans les débats nauséabonds avec la question du voile, etc. Et en réalité, il se pourrait que, et je pense que c'est quelque chose qui nous pend au nez, qu'un vote massif, enfin en tout cas plus important que ce qu'on pourrait imaginer dans les quartiers populaires, en faveur de Marine Le Pen. Et je veux absolument alerter là-dessus. C'était déjà le cas au premier tour.
Dans les quartiers populaires, Adil, on en débattait la semaine dernière.
Bien dans le micro.
Et ça va se renforcer au second tour.
On en débattait la semaine dernière quand on parlait des votes des quartiers populaires. Je dis, le vote des quartiers populaires va être massivement pour Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il a su leur parler, il a su leur dire, moi j'en ai marre qu'on vous stigmatise, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, j'ai dit que Marine Le Pen serait la grande gagnante des quartiers populaires, et si tu regardes la cartographie, c'est la grande gagnante des quartiers populaires. Maintenant, elle a besoin non seulement de séduire l'électorat d'Éric Zemmour, donc il est quasiment acquis, ça c'est une certitude, mais aussi les ciotistes, les 40% de gens qui ont voté Ciotti à l'intérieur de la primaire. Et l'erreur de Valérie Pécresse, ça a été de vouloir essayer de draguer l'électorat du Rassemblement National. Et donc, ceux de la droite modérée, ceux du centre proche de l'UDI, bah, ils ont viré chez Macron immédiatement.
Elle a été prise en étau.
Mais complètement. Elle a fait imploser, mais de manière maladroite, ou alors mal conseillée. Et puis, ceux qui étaient droite, conservateurs, durs, pratiquants, etc., ils ont naturellement glissé vers le Rassemblement National, qui leur faisait moins peur que Éric Zemmour. Donc, le voile, c'est comme on l'a à chaque fois qu'il y a un problème, on parle du voile, on parle du burkini, on parle de la burqa, ça y est, on parle plus des autres problèmes. Moi, samedi, j'étais avec des gilets jaunes, comme chaque samedi. Et je peux te dire que leur discours, il est très simple. Et pourtant, là-dedans, t'as des gens des quartiers populaires, t'as qu'à regarder le Facebook de Fauzi
Le Louche,
qui est bien clair, il dit « Hey, je suis fâché, pas facho, mais ça sera ni Le Pen ni Macron ». Regarde ce que dit Jérôme Rodriguez, regarde ce que disent les grandes têtes des Gilets jaunes. On les a oubliés, mais c'était 2 millions de personnes dans les rues de France. Ces gens-là, il y en a pour certains, ils ont été bien clairs, et ils m'ont dit à chaque manifestation, nous, on fera battre Emmanuel Macron. Quand tout à l'heure, le président Fodessila parlait des violences policières, je rappellerai, 35 éborgnés, 5 mutilés, des milliers d'arrestations, des gens qui ne peuvent pas voter, des gens qu'on a séparés de leur famille, des arrestations arbitraires, des condamnations, des verbalisations à tout va. Ces gens-là, va leur dire de voter pour Emmanuel Macron pour faire barrage au Rassemblement National. Ça, il n'y a aucune chance que tu les récupères, ces gens-là.
On marque la pause, la seconde pause, et on se retrouve pour la dernière ligne droite, ici même, dans Les Informés. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les Informés, reviennent dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, les informés avec Adil Farkan.
Dernière ligne droite ici, dans les informés avec ce jour férié. Je vous souhaite évidemment de profiter de cette journée. Philippe Nadjiboyaki, Amin Sahar, Rudy Kazi, messieurs, avec cette dernière ligne droite. Et finalement, est-ce qu'Emmanuel Macron ne devrait pas tendre la main à Jean-Luc Mélenchon en lui proposant peut-être une responsabilité, en lui confiant non, pas forcément, mais un programme qui soit autour de quelque chose qui ressemblerait à un redressement social.
C'est impossible.
C'est impossible.
Mais c'est impossible dans le sens, lorsque vous entendez les déclarations du président de la République, qu'est-ce qu'il a dit ? Il dit, vous allez travailler jusqu'à 65. Jean-Luc Mélenchon, il dit 60. On va augmenter le temps de travail. Jean-Luc Mélenchon parle de 32 heures. On va... non, sérieusement, il parle pas de...
On est à rebours.
Mais les deux programmes sont complètement antinomiques. C'est impossible que vous puissiez avoir des mesures. Il parle de la casse des services publics, c'est-à-dire de supprimer les fonctionnaires et de supprimer les régimes spéciaux, alors que Jean-Luc Mélenchon veut les renforcer. Enfin, c'est pas possible. Je vois pas sur quel point ils vont pouvoir s'entendre. L'autre, il est contre le nucléaire. L'autre, il est pour. Mais bon, on l'a vu, il a fait des visites... ce vendredi, il a essayé de sensibiliser la communauté catholique en faisant la visite de Notre-Dame. Vous l'avez vu, ces images en train de déambuler dans la cathédrale. Ce grand écart, il est juste impossible. Il y a eu tellement de haine, de mots durs qui se sont dits pendant tout le quinquennat, avec les ministres, avec les députés. On a vu des prises de bec à l'Assemblée nationale. Mais comment est-ce possible ?
Beaucoup trop de clash pour qu'on puisse effectivement.
La seule chose qui pourrait arriver sur un gouvernement d'union nationale ou des listes d'union nationale, ce serait que Marine Le Pen devienne présidente de la République. Et là, tout le monde se dira, les Français ne sont pas schizophrènes, vont lui donner une majorité. Et croyez-moi qu'il est dans des endroits où que la gauche réunie, comme ça, c'est en train de se dealer de manière nauséabonde, d'ailleurs, je trouve, à mon sens, mais de dire on présente personne en face d'un candidat de la République En Marche ou de la droite sur une circo où on pourrait la faire basculer Rassemblement National. C'est en ça que, d'ailleurs, beaucoup de gens, dans leur réflexion, disent « je vais voter Marine Le Pen, mais parce que je sais qu'on ne mettra pas de bulletin national ».
Il n'y croit pas une seconde. Qui veut prendre la parole?
Je n'y crois pas une seconde. D'abord, sur le travail entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, moi je crois que c'est juste impossible parce qu'on est ces deux opposés, ces deux Frances différentes, ces deux visions différentes de la France. Et donc ça, c'est pas possible. Après, les législatives nous diront si les Français veulent donner plus d'impact ou en tout cas une majorité à l'un ou l'autre. En tout cas, sur ce que vient de dire Philippe à l'instant, moi je n'y crois pas une seule seconde. Pourquoi ? Parce que à chaque fois, sous le quinquennat, à chaque fois que les Français ont élu un président, ils lui ont donné une majorité. Et donc, si Marine Le Pen est élue dans 6 jours, elle aura une majorité pour gouverner. Parce que les Français ne sont pas schizophrènes. S'ils votent le 24 avril pour Marine Le Pen, ils voteront Rassemblement National aux prochaines législatives. Ça, j'en ai la certitude. Et donc, il faut surtout pas jouer avec le feu. Et donc, sans hésitation, moi, en tout cas, j'irai voter pour Emmanuel Macron. Et j'appelle toutes celles et ceux qui souhaitent le faire à voter pour Emmanuel Macron pour faire barrage. Je ne suis plus au Parti Socialiste.
Ah oui, c'est vrai, vous êtes plus au Parti Socialiste. C'est vrai, c'est vrai.
Je reste un homme de gauche, d'une part, et surtout, je veux préserver la démocratie et la République, et je crois que le seul bulletin qui permet de préserver la démocratie et la République, c'est celui d'Emmanuel Macron, le 24 avril prochain.
Moi, j'aimerais dire une chose par rapport à cette question, effectivement, cette possibilité qu'Emmanuel Macron aurait de pouvoir draguer, entre guillemets, l'électorat de Mélenchon, parce qu'en fait, il s'agit de ça,
c'est ça,
en fait.
C'est ça, exactement.
Dans les sondages, en fait, vous voyez que il y a, par rapport au report des voix de Mélenchon pour Macron, on est à 41%, à peu près 21% pour Marine Le Pen, mais en termes d'abstention, c'est-à-dire les gens qui ont voté pour Mélenchon, il y aurait 38% d'abstention blanc et vote nul. Donc on voit quand même que, ne serait-ce que par rapport à la dualité là qui nous est proposée, là, il y a déjà des gens qui ont voté pour Mélenchon qui pensent pouvoir déjà voter pour Macron juste pour faire barrage à Marine Le Pen. Il y a des déçus de Macron, je pense, ou l'électorat assez populaire, donc proche aussi de Marine Le Pen, sur la question du pouvoir d'achat, etc., qui eux sont proches de voter pour Marine Le Pen. Mais par rapport à la question de fond, moi je pense pas que ce sera possible, déjà parce qu'effectivement il y a une grande opposition sur l'aspect idéologique entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, mais aussi parce que ça donnerait l'idée, la pensée en fait d'un espèce de gouvernement d'unité nationale, comme en parlait à Philippe tout à l'heure, ce qui n'est absolument pas dans l'ADN français en réalité. Je pense que déjà, par rapport à notre type de régime, c'est absolument impossible. Nous, on a un régime, on va dire, quasi présidentiel, ou à cheval entre le régime présidentiel et un régime parlementaire. On élit directement le président, c'est unique en Europe. Donc du coup, au sortir d'une élection, l'homme fort du pays, vraiment le président, il en sort vraiment totalement renforcé. Et ce n'est qu'une normalité que de lui donner en fait la majorité à l'Assemblée nationale. Évidemment. Surtout quand on a fait les réformes constitutionnelles, je crois que ça date quoi, de 2001.
Oui, l'instauration du quinquennat et surtout l'inversement du calendrier.
Alors que les élections législatives étaient à mi-chemin du septennat à l'époque, ils sont maintenant juste après l'élection présidentielle. Donc on donne un espèce de blanc-seing au président, et en plus de ça, c'est pas comme si à l'Assemblée nationale il y avait le vote à la proportionnelle, ce qui existe dans la plupart des grandes nations ou des grands États européens, ce qui n'existe pas chez nous, et qui donnerait effectivement une meilleure représentation des pensées politiques du pays, au point à un moment donné d'arriver en fait à un gouvernement d'unité nationale, comme ça se produit en Allemagne. Déjà, notre régime politique ne le permet pas. Donc ce serait un petit peu de la poudre aux yeux que de penser qu'Emmanuel Macron pourrait avoir...
J'aimerais finir cette émission, messieurs, avec notamment celles et ceux qui se posent la question aujourd'hui encore. Vous savez, c'est ce casse-tête des électeurs mélenchonistes, justement, ou mélenchonistes, c'est comme ça qu'on dit, effectivement. Alors ce casse-tête, beaucoup se posent la question, s'abstenir ou voter Macron, ou pour sauver la France, bien sûr. Beaucoup se disent ne pas vouloir aller voter. Beaucoup se disent aussi, comme vous l'avez rappelé à Minsa tout à l'heure, c'est-à-dire, dans l'esprit, les gens veulent en finir avec ce système macroniste, donc ils sont prêts à aller voter Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous leur dites et qu'est-ce que vous dites sur cela, évidemment, sur ce sujet précis, à Minsa?
Moi, je l'ai dit à l'instant, mais je peux le redire. Pour moi, il n'y a pas d'égalité, de signe égal entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Jamais je ne mettrai d'égalité, de point d'égalité entre les deux. Et donc, malgré toutes les déceptions, malgré la colère, et je peux l'entendre dans le pays, malgré les gens fâchés, malgré les manquements de ce quinquennat, et moi, j'ai pas de difficulté pour le dire, il faut savoir faire la différence. Et dans 6 jours, le seul vote utile pour préserver la République, c'est pas le vote blanc. Parce que dans ce pays, d'abord, on comptabilise pas les votes blancs, chacun le sait, et le seul vote utile, ce sera celui qui préserve la République, et donc celui d'Emmanuel Macron. Et donc, il faut absolument faire barrage à Marine Le Pen le 24 avril prochain.
Rudy Casi. Il lâche d'abord un...
Ouais, mais parce qu'en fait...
Il y a une forme de lassitude.
Oui, parce qu'en fait, je trouve que... Est-ce que c'est vraiment faire marcher la démocratie que de proposer ce match-là pour une deuxième fois les records? Moi, je donnerai pas des consignes de vote. Simplement, je dirais aux gens d'aller voter et de voter en leur âme et conscience. Simplement, c'est clair que moi, je voterai pas Marine Le Pen. Ça, c'est évident. mais un mot sur l'abstention. Je pense que à chaque fois qu'on arrive à une nouvelle élection, on se pose toujours la question de la manière dont il faut considérer l'abstention, de la manière dont il faut considérer le vote blanc ou le vote nul. Mais entre chaque élection, ce débat ne revient jamais sur la table. Donc ça veut dire en fait que on est un peu schizophrénique sur la question. On aime faire les grands constitutionnalistes, etc. Et je me mets dans ce panier-là parce que j'aime bien le constitutionnalisme. Mais faut pas que ce soit des excitations passagères. Alors même que ça prouve quand même un problème de crise politique dans notre pays. Et en plus, c'est cette fracture dont on parle beaucoup chez nous à l'Association des élus de France, c'est des fractures qui se démultiplient en fait. Fractures sociales, fractures politiques, fractures entre le politique et les Français, etc. Donc à un moment donné, ces questions, il va falloir se les poser. Bon, ensuite, par rapport à Marine Le Pen, bon... elle a beau avoir un discours très porté sur le pouvoir d'achat, ce qui peut s'entendre, parce que, je veux dire, on est après à plus de 10 millions de pauvres, et pas seulement à cause de la pandémie. Vous voyez,
il y a cette volonté de rupture aussi pour certains.
Oui, parce que du coup, comme c'est un parti qui n'a jamais gouverné, et que il y a des déceptions au niveau des différentes gouvernances qu'on a eues jusqu'à aujourd'hui, les gens se posent cette question. Mais faut pas oublier le socle. Et je veux dire, il n'y a qu'à regarder le programme de Marine Le Pen. Tout est toujours tourné vers l'exclusion, vers l'immigration. Et moi, je veux pas le faire, en fait, juste parce que, effectivement, moi, je suis d'origine africaine ou quoi que ce soit. Il n'est pas question de ça. Moi, je suis pas dans des votes communautaires. Je regarde et je me dis que même par rapport à la représentation démocratique, il y a des choses qui ne relèvent pas de la démocratie. L'exclusion, la préférence nationale, c'est pas démocratique, c'est pas constitutionnel. Donc pourquoi voter pour quelqu'un comme ça qui met à mal tous les acquis sociaux que l'on a déjà depuis 1789.
Et c'est bien de le rappeler, effectivement. Donné, et c'est bien de le rappeler. Philippe Nadji Bourassi,
je veux dire, je crois que c'est à Emmanuel Macron là dans les 4 jours qui nous restent hein, de nous donner les arguments pour pouvoir convaincre les gens et se convaincre certains pour soi-même d'aller voter de voter Emmanuel Macron et pas y voter Marine Le Pen. Aujourd'hui, je suis vraiment désolé. Tu sais que je suis un grand démocrate, je suis un grand républicain. Je me battrai pour la République, je me battrai pour la démocratie, je me battrai pour ma nation qui s'appelle la France de tout cœur. Je l'aime et elle nous a aimés, elle nous a permis d'être ce qu'on est aujourd'hui. Donc moi, je suis un vrai nationaliste, un vrai patriote. Mais je te le dis, qu'est-ce que je réponds à mes potes gilets jaunes? Qu'est-ce que je réponds à mon pote Jérôme Rodriguez? Quand il me regarde, il est obligé de se mettre sur le côté pour me regarder. Qu'est-ce que je réponds à Manu? Qu'est-ce que je réponds à Coralie?
D'être continuer le combat et d'aller voter
Blanc.
Qu'est-ce
que je réponds aux mutilés pour l'exemple? Non, voilà, je leur réponds quoi? J'ai eu ce débat, on en a parlé. Franchement, faut avoir vraiment le ventre solide et le cœur solide pour entendre ce qu'ils ont vécu. On l'a filmé, j'étais présent, moi, en tant que reporter urbain, en tant que journaliste, lorsqu'il y avait ces répressions policières, on les a vus dans nos quartiers, etc., mais on les a vus en live. Tu veux leur dire quoi, ces gens-là? Aux gens des périphéries, aux gens de la ruralité, tu veux leur dire quoi? La vérité, c'est que moi, je suis à court d'arguments. Alors, ok, on a entendu tout ça, la démocratie, machin, etc. Mais quand ton ventre, il est vide, quand tu vas gueuler et que tu prends des coups de matraque, t'entends plus rien après.
Eh bien, merci, messieurs.
J'espère que le président nous entendra.
Merci à Philippe Nadji Bourassi, conseiller régional, donc qui représente l'écologie, l'Europe écologie, tout simplement.
Et par ailleurs, je suis écologiste.
Écologiste, tout simplement.
Macron va certainement repasser.
Amin Saar, qui est le maire adjoint, oui, il risque de repasser, effectivement, quand on voit les.
C'est à la fin du bal qu'on paye des musiciens.
Amin Saar, maire adjoint sur la ville de la Courneuve.
Macron que. On voit plus son âge.
Saint-Germain-les-Arpajons. Merci à Yanis à la réalisation. On se retrouve demain, même horaire, 10h. Prenez soin de vous, on ne lâche rien. Ciao, ciao.
Encore bonne fête.
Retrouvez les informés tous les jours de 10h à 11h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.